Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, soyez les bienvenus dans Priorité Santé. Vous ne me comprenez pas, personne ne me comprend. Qui n'a jamais lancé à son entourage ce genre de petites phrases pleines d'exaspération, de colère, d'amertume ou de tristesse? Le fait de ne pas réussir à convaincre, d'être contredit, d'avoir du mal à s'exprimer, peut provoquer ce sentiment d'être incompris, rabaissé, seul contre tous. Alors comment reprendre confiance en soi, s'ouvrir aux autres, accepter d'extérioriser ses émotions? Comment capter l'attention de l'autre? À partir de quand ce sentiment d'être incompris devient-il une pathologie? On va aborder tous ces points avec notre invitée Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris. Et si vous souhaitez lui poser des questions ou si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur le lancement à Paris le 25 juin de l'Institut des cancers des femmes. L'objectif de cet institut pluridisciplinaire, mieux comprendre, prévenir et guérir toujours plus. Sa directrice, la professeure Anne-Vincent Salomon, nous expliquera la stratégie de cet établissement spécifique.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans. Je réside au Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Je me sens incomprise par ma famille parce que j'ai choisi de prendre un chemin différent. On me traite d'orgueilleuse, prétentieuse, peut-être parce que j'ai un peu essayé de pousser les études par rapport à d'autres, dont mes choix ne sont pas forcément vus et acceptés. Je me suis rendu compte qu'on m'a déjà classée dans un cadre de vie que je devrais avoir, et comme je ne prends pas ce chemin, alors les gens espionnent, ils essaient de te décourager, ils essaient de porter des jugements négatifs sur toi pour que tu puisses te décourager. Et on te critique parfois tellement au point où tu commences à manquer de confiance en toi. Tu ne parviens pas à être à l'aise entre ce que tu étudies, le cadre de vie que tu aimerais avoir. Il est bien vrai que c'est ma famille, c'est mon entourage, mais je manque cruellement de confiance en moi parfois. Je me suis mise au développement personnel, à écouter des vidéos et tout, mais quand j'essaie de vouloir implémenter ce que j'ai étudié, non, il ne faut pas étudier ça, non, il ne faut pas faire ceci, non, il ne faut pas faire cela, tu es déjà très orgueilleuse, tu montres que tu connais trop, regarde l'autre qui a fait ceci, il faut ressembler à ça et tout. Donc à un moment, ça devient pesant, ça devient gênant. Ma question est celle de savoir comment mettre des limites face à mon entourage, comment m'imposer, comment ne pas me sentir coupable, comment aller de l'avant sans me sentir mal.
Docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Avant de répondre aux questions de Caroline, que vous inspire son témoignage?
Alors, je me pose la question de savoir si Caroline n'a pas un quotient intellectuel très supérieur à la normale. Parce qu'elle fait des études, elle a l'air d'être très confortable dans ses études. Il semble que son entourage ait envie de la normaliser, entre guillemets, c'est-à-dire tout le monde doit faire telle chose à tel moment, les filles, etc. etc. Et quand on voit que c'est une jeune qui s'intéresse au développement personnel et à ses études supérieures, on peut vraiment se demander si elle n'a pas ce chemin personnel qu'elle a tout intérêt à garder. Et lorsqu'on la critique ou lorsqu'on la traite d'orgueilleuse, ce serait intéressant que ça glisse un petit peu comme sur les plumes d'un canard, si j'ose dire, et aussi qu'elle n'essaie pas de convaincre. Parce qu'on voudrait qu'elle ait une attitude très standardisée. Elle n'a pas intérêt à trop dire qu'elle fait du développement personnel, etc. Son chemin, c'est intéressant pour elle qu'il soit personnel et qu'elle n'essaie pas de convaincre. Parce que je crois qu'elle n'y arrivera pas de toute façon. Très fréquemment, quand on est dans un cercle qui a des a priori qui sont très normatifs et que l'on ne se sent pas dans ce registre-là, c'est important de suivre son propre chemin sans essayer de convaincre les autres et sans leur faire entendre qu'ils ont tort parce qu'ils sont comme ça et donc il y a intérêt à se protéger.
Et est-ce qu'il pourrait y avoir un sentiment de jalousie, par exemple, au sein de sa famille, par rapport à sa réussite, justement, dans les études ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Le plus souvent, c'est ça. Parce que les gens se sentent infériorisés et ne supportent pas que l'autre soit différent, entre guillemets, en mieux. Et donc, effectivement, ça peut déclencher de l'agressivité. Et c'est pour ça qu'on l'appelle orgueilleuse. On lui dit qu'elle est orgueilleuse, alors que ce n'est pas du tout le souci. Mais elle a sûrement intérêt à taire ses décisions et ses chemins différents. Peut-être qu'elle pourra trouver dans ses études des jeunes qui sont comme elle. Dans ce cas-là, elle a son groupe familial, etc., et son groupe d'amis peut-être plus intellectuellement avancé.
Et comment faire pour qu'elle arrête de se sentir coupable ?
Oui, mais elle n'est coupable de rien. Ça, c'est très clair. Et ça, il faut qu'elle se le dise. Elle est différente d'une majorité, ce qui ne veut pas dire que la majorité a tort ou raison. La majorité a raison pour elle et la minorité dont elle fait sûrement partie a raison pour elle. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y a aucune culpabilité. Et moi, je crois que là, elle a un chemin de vie très intéressant. D'ailleurs, hein, elle dit qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses et donc qu'elle continue comme ça, mais discrètement, qu'elle n'essaie pas de convaincre son entourage.
Et le développement personnel, est-ce que c'est une bonne piste, une bonne solution ?
Ah, c'est formidable pour arriver à se comprendre mieux et surtout pour elle à ne plus culpabiliser.
Docteur Gavard, le sentiment d'être incompris est-il fréquemment évoqué par les patients que vous recevez en consultation ?
Alors, pas tant que ça. C'est en creusant qu'on arrive à voir qu'il y a un manque de confiance en soi qui s'est installé depuis l'enfance le plus souvent. Mais c'est pas tellement être incompris, c'est la difficulté à se sentir à un certain niveau. C'est plus ça que je rencontre en consultation très fréquemment.
Donc ils ne vous disent jamais directement « personne ne me comprend, aidez-moi ».
C'est rare. À ce point-là, c'est rare.
Mais est-ce que ce sentiment d'être incompris peut provoquer justement un tel mal-être que ça pousse les personnes à venir vous consulter ?
Ah oui.
Même s'ils ne mettent pas le vrai mot qui correspondrait à ce qu'ils ressentent et à ce qui les perturbe.
Oui, ça, tout à fait. Parce qu'à force, il y a un sentiment de gêne, de mal-être et se dire qu'on est peut-être pas suffisamment bien pour l'entourage. Donc, ça joue sur l'augmentation du manque de confiance en soi, le plus souvent.
Docteur Gavard, on va prendre un premier auditeur en ligne, Bruno, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Bruno. Bruno, est-ce que vous nous entendez ?
Bonjour Chantal. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors Bruno, on vous écoute. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment d'être incompris, et je crois, à la fois au travail et par votre entourage ?
Justement, je suis très souvent incompris au travail, même dans mon entourage familial aussi. Très souvent, je suis incompris. Et j'ai essayé quand même de savoir pourquoi. Les amis me diront que voilà, je suis trop solitaire. Je préfère vivre seul, m'éloigner des autres. Pourtant, ce n'est pas mon comportement parce que je suis solitaire, je suis serviable plutôt, je suis généreux, j'aime bien être avec les autres, mais ils me traitent de solitaire.
Et est-ce que les autres vous reprochent quelque chose en particulier, des attitudes en particulier ?
Que je suis trop timide. Quand je suis au milieu des autres, je ne parle pas trop, je ne partage pas les mêmes habitudes que, par exemple, j'évolue dans un club d'amis où la majorité prennent de la boisson, par exemple. Et quand je suis avec eux, moi, j'en prends pas. Et ça les dérange, par exemple.
Et alors, est-ce que vous avez une question ou des questions en particulier pour le docteur Gavard ?
Ma question est celle de savoir comment pourrais-je faire pour satisfaire mon entourage, pour ne plus être traité de solitaire et tout, et voilà.
Docteur Gavard.
Alors, ne pas être traité de solitaire, déjà, il faut voir ce que cette solitude que vous montrez aux autres entraîne chez les autres. Très fréquemment, lorsqu'on a envie d'être seul, les autres se sentent rejetés. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour soi. Et là, il est possible que vos amis trouvent que finalement, être seul, c'est une façon de ne pas les apprécier et de leur montrer. Alors, peut-être que vous pouvez peut-être un peu plus les fréquenter. Bon, par rapport à l'alcool, effectivement, vous avez bien raison de ne pas prendre d'alcool si vous n'en avez pas envie. Ça à nouveau, lorsque des personnes ont un problème avec l'alcool, boivent beaucoup trop, ils ne supportent pas les gens qui ne boivent pas. Parce que c'est comme s'ils se regardaient dans un miroir et voyaient, ils voient qu'ils sont addicts et que, bon, ils se sentent remis en question devant quelqu'un qui ne boit pas. Donc, maintenant, que faire avec vos amis? C'est leur montrer que vous appréciez leur présence. Et puis, est-ce que finalement, vous avez cette attitude de solitude pour vous protéger de quelque chose qui s'est passé dans votre petite enfance? Ce serait intéressant de vous poser la question.
Bruno, comment ça se passait avec vos parents quand vous étiez enfant? Parce que vous avez dit à notre équipe hors antenne que ce sentiment d'être incompris par votre entourage, vous l'aviez depuis l'enfance. Et aujourd'hui, vous avez 31 ans.
Oui, mon enfance a été un peu marquée par les mauvais côtés de la vie. Dans mon enfance, j'étais tout le temps exposé à la violence conjugale parentale. Et puis, j'ai kiffé ce qui va se solder par la séparation de deux parents. Et voilà. J'ai commencé à me retrouver à côté de grands frères et tout, et qu'on soit à gauche et à droite, qui n'avaient pas aussi d'expérience pour pouvoir nous encadrer. Et puis, je me sentais mal aimé, malvenu au monde. Et puis, cela a développé à moi un comportement un peu radical, un peu rigoureux, un peu logique. Et jusqu'à ce jour, voilà un peu.
Est-ce que ça veut dire aussi que dans vos rapports avec vos amis, vous avez du mal à accepter la contradiction ? À débattre avec eux calmement.
Justement, c'est cela. C'est vraiment ça.
Alors, docteur Gavard, oui, terminé, Bruno.
Il de me ramener.
Docteur Gavard, comment ne pas s'énerver quand on discute avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous?
Déjà, il faut se dire pourquoi on voudrait qu'ils soient d'accord avec nous. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut.
Mais on peut essayer aussi de vouloir convaincre l'autre à tout prix.
Oui, mais dès que c'est à tout prix, c'est un manque de respect de l'autre. Et l'autre ne va pas se laisser faire. C'est rare d'arriver à convaincre au bout d'une conversation, ne serait-ce que des différents religieux, politiques ou de vie. Donc, vouloir convaincre l'autre, il y a un manque de respect de l'autre. On peut être dans une discussion en disant « bon, je ne partage pas ton point de vue », mais sans s'énerver. Parce que si on s'énerve, l'autre va nous prendre en grippe encore bien plus. Et là, Bruno, on peut penser que cette solitude lui a permis de se protéger des bruits, des cris des parents, de ce sentiment, apparemment, il s'est senti mal aimé, il a dû l'être. Les parents étaient peut-être trop préoccupés pas par leur vie et leur
problème, relation conflictuelle.
Pour s'occuper de lui notamment. Donc là, il a dû se mettre dans une bulle soi-disant protectrice, mais qui l'a coupé des autres. Et c'est ce que les autres lui reprochent aussi. Donc s'il comprend que maintenant, il n'y a plus ce danger quand un enfant est petit et que les parents se disputent, il se sent en danger constamment. Maintenant, il n'y a plus ce danger. Donc il peut aller vers les autres, mais en se disant que si l'autre n'est pas d'accord avec lui, ce n'est pas grave. Ça ne leur met pas en question lui, ce n'est pas grave.
Voilà, il faut dédramatiser peut-être les relations ou les discussions avec les autres. Merci Bruno de nous avoir appelés. Je vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. Docteur Gavard, sur WhatsApp, on a une question de Philippe au Bénin. J'ai l'impression que les gens qui ne me connaissent pas me comprennent mieux que ceux qui me connaissent. Comment l'expliquer?
Alors, souvent, les gens qui ne nous connaissent pas, en gros, n'en ont pas grand-chose à faire de nous. Chacun a sa vie et on se préoccupe des personnes qui sont très proches le plus souvent. Donc, il y a une espèce d'indifférence que Philippe peut peut-être envisager être une meilleure compréhension. Mais c'est-à-dire qu'il y a une moins grande implication. Par contre, au niveau des proches, le proche, il peut se sentir rejeté aussi. Parce que le sentiment de rejet que l'on peut avoir, il faut bien dire que l'autre en face a peut-être aussi ce même sentiment.
Donc, voilà, c'est une relation miroir.
Mais oui, c'est souvent une relation miroir. Et une incompréhension qui fait de la peine aux deux côtés, des deux côtés. Alors que quelqu'un qu'on vient de rencontrer, il n'en a pas grand-chose à faire, à vrai dire.
Love devenir tentant. Les problèmes d'antan n'ont pas survécu, j'ai tiré dans le tas. Pas de mental, pas de villa, pas de patèque, pas de quoi qu'on fait l'étal. Parce qu'éteint mon soleil à moi, du coup les jours ressemblent à Oni. Je développe vision bionique, je suis sur eux, je suis sur piloti. Je ne suis jamais là, je ne suis jamais là, plus de temps pour elle. L'inconquise comme Loki, c'est pas le même flux temporel. Je ne comprends plus ce que le cœur dit quand je parle business. Je vais les faire zooker comme un top shot, comme princess. La mif, tu finis comme Annie. Si tu touches la mif, tu finis comme Annie. Je vais finir le jeu, je vais passer les califs. Pour tout ce qu'on veut, on n'attend pas les anif. Money, on est là. Du bruit, pas de relève, pénurie. Fond du trou, fond du crous. Je m'étouffe, fond du douce. Tout le monde a pas quand ça décolle. Ça applaudit quand c'est à terre. Rex en Rex, Brooks en Brooks. Mon baveux, pas tes frères. Tous les enfants de maman sont jolis. En plus je fais la money. C'est sur infini en doggy. La vie de Zach ou celle de Cody. Qu'est-ce qu'on nous a maudit. Mais j'oublie quand ces fesses applaudissent. On touche la mif. Tu finis comme elle. Si tu touches la mif, tu finis comme Annie. Je vais finir le jeu, je vais passer les califs. Pour tout ce qu'on veut, on n'attend pas les anif. Money, on est là-dedans, on est là-dedans.
Mauvais élève, la rappeuse martiniquaise Meryl, en playlist RFI. Cet extrait de son premier album Caviar 1. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Marie-Claude Gavard pour évoquer le sentiment d'être incompris. C'est le thème aujourd'hui de Priorité Santé. Et on va prendre un second auditeur au téléphone. C'est Noé qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Noé.
Bonjour Chantal, bonjour docteur.
Bonjour.
Noé, c'est dans votre milieu professionnel, vous êtes enseignant, que vous ressentez ce sentiment d'incompréhension ?
Tout à fait Chantal, je suis Noé, j'appelle depuis Douala, j'ai 29 ans, je suis enseignant de morale et d'éthique. Je suis incompris par mes collègues au travail parce qu'ils me considèrent comme trop sérieux et rigoureux. Parce que j'enseigne la discipline et j'essaye également de pousser les apprenants à adopter une attitude correcte et surtout la bonne morale. Un exemple, par exemple, je me sens incompris lorsque j'arrive très tôt pour un cours qui a lieu à 7h30, j'arrive à 7h25 et je commence bel et bien mon cours à 7h30. Et mes collègues voient ça d'un mauvais œil en me traitant d'être trop sérieux et de mettre un peu d'eau dans mon vin, parfois. Et il arrive également que lorsque nous asseyons à la salle des profs pour discuter du déroulement des cours dans nos salles de classe, que je puisse donner mon avis concernant une certaine attitude que les enseignants doivent adopter, mes collègues me reprochent de leur faire la morale, en fait. Ils me considèrent comme celui-là qui se prend pour un être parfait. Et cela me donne l'impression d'être anticonformiste ou d'être incompris. Et cela crée une certaine gêne à la longue. Et j'ai comme l'impression d'être le mouton noir au milieu du troupeau.
Mais est-ce que vous comprenez que vous, ce que vous appelez être rigoureux, peut être perçu par vos collègues comme de la rigidité un petit peu ?
En fait, j'ai essayé d'en discuter avec eux. Nos apprenants sont turbulents et certains récalcitrants. Pour les aider à réussir dans leurs études et à mieux préparer leur avenir, il faudrait qu'ils soient disciplinés. Et en tant qu'enseignant de morale et d'éthique, c'est de mon devoir de leur apprendre cette discipline. Et je croyais pouvoir compter justement sur l'appui et le soutien de mes collègues. Il n'en est rien. Parce que nous qui leur enseignons la discipline, nous devons nous-mêmes être disciplinés dans un premier temps. Et malheureusement, certains de mes collègues ne le comprennent pas ainsi.
Et alors,
il arrive même parfois.
Alors, est-ce qu'il arrive que les discussions avec vos collègues dégénèrent, que vous vous mettiez en colère, par exemple ?
C'est arrivé une ou deux fois où je suis sorti brusquement de la salle parce que ça devenait n'importe quoi.
Alors, est-ce
j'étais le dindon de la farce, carrément, puisqu'ils en rigolaient. Monsieur Ponctuel, il me donnait certains surnoms que je n'appréciais pas du tout, même si, après, certains me disaient que, en fait, c'était de la rigolade, mais je leur disais que cela me gênait. Ils ne comprenaient malheureusement pas.
Alors, Noé, est-ce que vous avez une question pour le docteur Marie-Claude Gavard ?
Bien sûr, Chantal. S'il vous plaît, docteur, j'aimerais savoir comment réagir face à ceux-là qui ne nous comprennent pas, ceux-là qui nous jugent ou qui ont des préjugés par rapport à nos valeurs ou à ce qui est important pour nous.
Noé, lorsque vous parlez des autres qui ont des préjugés, peut-être aussi, ce serait intéressant que vous pensiez à vos préjugés, vous voyez ? Parce que vous parlez de discipline, d'être strict, être à l'heure, bon, bien sûr, ça c'est tout à fait normal, mais je pense que vous seriez à l'heure à vos cours et il n'y aurait que ça, vos collègues ne trouveraient rien à dire. C'est le côté rigide que vous montrez, que vous leur montrez, avec une critique, parce que vous les critiquez en fait. Hein. À partir du moment où vous montrez que vous, ce que vous pensez, c'est la loi, c'est ce qui va être suivi, c'est comme si vous les infantilisiez. C'est-à-dire, vous êtes le professeur et eux, ce sont des sales gamins. Je ne parle même pas de vos élèves, parce que, vous savez, lorsque vous voulez appliquer un schéma très rigide, ce qui semble que vous faites, d'après ce que vous dites. Vous n'êtes pas dans la compréhension et dans le respect des jeunes. Les jeunes ont besoin, comme les moins jeunes, de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et là, peut-être qu'il n'y a pas cette place-là lorsqu'ils sont avec vous. Et lorsque vous parlez des autres, il semble que vous mettiez effectivement à part, mais dans un système qui est le vôtre et qui est très rigoureux. Peut-être vous pourriez vous poser la question de savoir pourquoi vous avez besoin d'un monde aussi strict, parfait, carré. En quoi vous avez besoin de vous rassurer constamment ? Parce que la souplesse, ça ne veut pas dire la faiblesse. La souplesse, c'est l'ouverture à l'autre. Et j'ai l'impression, c'est vous qui pouvez le savoir, que dans votre enfance, certainement, il y a eu un cadre qui a été extrêmement rigoureux et vous n'avez pas pu exprimer votre vraie personnalité avec ses côtés peut-être un peu fantaisistes, peut-être un peu curieux. Et là, je crois que vous êtes en train de subir, et dans vos rapports aux autres, cette douleur du passé qui remonte. Parce que vous pensez avoir raison. Même si vous avez un peu raison, il semble que ce soit trop strict.
Noé, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez grandi dans une famille peut-être autoritaire ou un peu rigide qui vous imposait un cadre, des horaires militaires, entre guillemets, à respecter ?
Non, pas du tout, Chantal, pas du tout.
Ah, donc vous êtes...
J'officie comme enseignant et j'ai dû adopter, en fait, cette attitude de la compte tenu de ce qui se passait autour de moi.
Mais alors, comment ça se passe dans la vie privée avec vos amis ? Est-ce que vous êtes plus « cool » entre guillemets ?
Bon, c'est une autre histoire, parce qu'avec les amis, il y a aussi des jugements. Tout à l'heure, j'ai écouté Bruno et je me suis identifié, par exemple, à ce qu'il disait concernant les sorties de groupe. Par exemple, quand nous sommes en sortie, les amis décident de prendre la bière et moi, une bouteille d'eau. Et là, ils voient ça d'un mauvais œil. Ils mettent en question ma virilité. Lorsque nous abordions des sujets tels que le football, la politique et l'actualité internationale, et que je puisse mettre un sujet sur la table tel que le développement personnel ou encore le changement climatique, certains me répondent qu'ils n'en ont rien à faire. C'est une histoire de blanc. Et en tant qu'Africain, je ne me dois pas d'aborder ce genre de sujet. Et ça ne me plaît pas du tout. Et ça crée parfois des frictions entre nous et on finit toujours par se retrouver. Contrairement à milieu professionnel, c'est beaucoup plus tendu entre amis. quoi qu'il en soit, on finit par s'entendre ou par se concilier avec en dialoguant, bien évidemment, en s'excusant mutuellement.
Docteur Gavard.
Alors, il semble que vous ayez peut-être vraiment envie et besoin que les autres soient d'accord avec vous. Or, vous voyez qu'il y a besoin d'une certaine souplesse. Et à partir du moment où vous avez vos collègues qui vous reprochent des choses de façon répétitive, ce serait intéressant pour vous de voir si vous pourriez vous assouplir un petit peu. Je pense que ce serait beaucoup plus agréable pour vous et pour vos collègues.
Merci Noé de nous avoir appelés. Bonne journée à Douala. Encore une question sur WhatsApp, docteur Gavard. Nadine, qui nous écrit de RDC, « Je ne me sens pas comprise par mes collègues. » Elle aussi. « Dois-je adopter le silence face aux gens qui ne me comprennent pas et ainsi leur donner raison ?»
Alors, donner raison, il n'y a pas de raison. Maintenant, savoir en quoi ils ne vous comprennent pas, c'est important. À partir du moment où vous avez plusieurs personnes qui vous disent la même chose, il faudrait savoir ce qui, dans votre attitude, entraîne cette façon de faire. Notre action entraîne la réaction en face. Alors, est-ce que vous faites quelque chose qui les choque? Est-ce que vous dites quelque chose qui les choque? C'est vraiment intéressant de les interroger. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de discussion possible parce qu'ils sont trop rigides ou parce qu'ils ont décidé qu'il y avait un comportement à avoir et que vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de rentrer en conflit. Simplement dire, bon, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Et ça ne veut pas dire leur donner raison, parce qu'à ce moment-là, ce ne serait pas vous respecter, ce serait embêtant.
Est-ce que ce sentiment d'être incompris, d'une manière générale, on le relève chez les personnes qui manquent d'empathie, qui ont du mal à se mettre à la place de l'autre?
Alors, pas forcément. Moi, je crois que quand on se sent non compris, voire pas respecté, etc., c'est peut-être qu'on n'a pas expliqué qui on était et pourquoi on réagissait comme ça. Il y a beaucoup de quiproquos dans les communications. Et faire reverbaliser à l'autre quand on n'est pas d'accord ou qu'on est blessé, en disant « mais est-ce que ce que tu viens de me dire, c'est ça ?» Et on le verbalise à sa façon. Et très fréquemment, celui d'en face dit « ah non, je ne voulais pas du tout critiquer, ce n'était pas ça. » C'est-à-dire, donner notre mode d'emploi est vraiment fondamental en disant « tu vois, moi je pense ça, ça ne veut pas dire que j'ai raison. » Et l'autre s'exprime aussi. Et là, je pense que quand Nadine dit qu'à la limite, il faudrait qu'elle se taise, je crois que c'est beaucoup trop en fait.
On va prendre Mohamed qui nous attend au standard. Mohamed, bonjour.
Oui, bonjour Madame Chantal, bonjour docteur,
bonjour
aux auditeurs de la RFI.
Alors Mohamed, vous nous appelez d'Abidjan, vous avez 25 ans, vous vivez avec vos oncles et vos tantes et vous dites « on ne se comprend pas ». Expliquez-nous.
Oui. Voilà. Je vais d'abord commencer par faire un petit exemple. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les robots même vivent encore plus en liberté que je ne vis.
À ce point-là?
Ils sont libres, ils sont libres de leur choix, ils sont libres de leur fait et gestes.
Et pourquoi vous n'êtes pas libre de vos choix?
Je ne suis pas libre de mes choix parce que c'est une ligne qui a été tracée pour moi dans la vie. Je n'ai pas de choix à faire. Quand j'essaie de faire une activité et que j'en parle à la maison, je suis empêché de faire cette activité. Sous prétexte que je suis un étudiant, voilà, il faut que j'aille uniquement qu'à l'école. C'est tout ce que je peux faire. Pourtant, j'ai le besoin d'aller travailler, d'apprendre un peu dans la vie professionnelle, d'acquérir de l'expérience. Mais je n'ai pas cette possibilité.
Vous voulez dire que vous voudriez faire un petit job à côté de vos études d'étudiant et que votre famille vous l'interdit?
Voilà, on me l'interdit.
Mais qu'est-ce qu'ils invoquent? Comment ils l'expliquent? Pourquoi? Quelle raison vous donne-t-il?
Aucune raison. Je me rappelle, il y a maintenant que tu m'as posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu veux aller faire un job à côté? C'est pour payer ta scolarité avec, te prendre en charge. J'ai dit, mais non, c'est juste pour apprendre, pour acquérir de l'expérience et tout. Et puis, je suis en vacances parfois. Je n'ai rien à faire, je suis à la maison du matin au soir, je n'ai rien à faire.
Et là aussi, on vous interdit de chercher un job d'été?
Oui, un job d'été, tout à fait.
Et si vous n'avez pas l'envie de le faire quand même, d'aller contre l'avis de vos oncles et tantes?
Ah, on me menace, on me dit que si je vais contre leur avis, ils vont arrêter de s'occuper de moi.
Et j'ai une question. Pourquoi vivez-vous avec vos oncles et vos tantes? Vous êtes orphelin, vous n'avez plus vos parents?
Si, j'ai mes parents. Mais comme je suis à... il y a des histoires et tout, là, donc ça fait que je suis plus en charge par mes parents.
D'accord. Est-ce que vous avez une question précise à poser au docteur Gavard?
Oui, vraiment, j'ai une question à poser. Le problème, c'est que j'arrive vraiment pas à extérioriser mes envies. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler, même quand je donne des preuves de ce que je dis ou de ce que je veux faire, on me dit que ce que je suis en train de dire, ce que je veux faire, ça n'a pas d'importance. Je suis sous leur responsabilité, je me dois d'exécuter exclusivement ce qu'ils me demandent de faire. Et sincèrement, ça me fatigue. Et depuis 2 ans aujourd'hui, je ne dis plus rien, je ne m'immixe plus dans rien, je ne fais que ce qu'on me demande de faire. Alors pour éviter même les histoires, je ne fais que ce qu'on me demande de faire. Je me rappelle une fois, il y a ma tante qui avait mis le riz au feu, et elle était rentrée dans sa chambre. Le riz était en train de brûler, je me suis levé, je suis parti, j'ai éteint le feu. Elle est sortie de sa chambre ce jour-là, elle m'a vraiment fait des remontants. Elle m'a dit pourquoi est-ce que j'ai éteint le feu sous le riz. Quelle est à quel degré elle avait réglé le gaz que je n'aurais pas dû, alors que le riz était en train de brûler. Du coup, je me dis que quel que soit ce que je vais faire, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, c'est-à-dire que je ne peux pas poser d'acte sans que cela ne soit interprété de la pire des manières très négativement. Alors j'ai décidé de ne plus rien faire. Je suis dans ma bulle, je me suis replié sur moi. Je sors, je m'en vais à mon cours, je rentre le soir. Les week-ends, je sors avec mes amis, juste pour éviter même les histoires. Parce que quel que soit ce que je vais dire, quel que soit ce que je vais faire, ce sera interprété négativement. Et même parfois, il y a tellement de conjectures, Et quand j'essaie de donner mes explications, ça n'aboutit à rien en fait. Mes explications n'ont aucune valeur. Ma volonté n'a aucune importance. Les faits et gestes que j'ai l'habitude de faire, c'est interprété vraiment dérisoirement de moi, ma propre volonté.
Adam.
Parfois, je suis tellement dépassé par les faits. Des objets que je vais déplacer, par exemple, dans la maison ou quand je vais me lever pour marcher, dans ma démarche, on y trouvera des communications indirectes. Les objets que je vais déplacer, on y trouvera des interprétations, parfois même à dire que ce sont des manières d'insulter les parents.
Donc tout ce que vous faites, si je comprends bien, est critiqué par vos oncles et vos tantes. Docteur Gavard, c'est difficile la situation de Mohamed, qu'est-ce qu'on peut dire?
Déjà, on peut dire que heureusement les études vont se terminer et qu'il pourra vivre sa vie. Vous pourrez vivre votre vie en dehors de ses oncles et tantes et là, vous aurez vos choix. Effectivement, stratégiquement, à l'heure actuelle, si dès que vous avez une envie... elle est contrecarrée, être dans votre bulle est sûrement une solution de protection qui est importante. Je pensais, pour pouvoir avoir un travail lorsque vous en avez envie, vous pourriez peut-être demander à un professeur de faire dire à vos oncles et tantes que c'est nécessaire de faire un stage ou quelque chose. C'est-à-dire, là, c'est une petite supercherie qui peut ne pas l'être d'ailleurs si c'est vrai, mais qui vous permettrait de ne pas... dire que c'est votre envie, mais que c'est plutôt quelque chose un petit peu obligé par les professeurs. Je pense que votre oncle et votre tante, à ce moment-là, accepteraient. Puisque eux, en fait, dans un esprit assez fermé, en fait, vous voyez qu'ils veulent que vous ne fassiez que des études. C'est une espèce de protection, qui est sûrement critiquable, une protection pour que vous réussissiez vos études. Maintenant, qu'ils vous critiquent tout le temps, vous voyez qu'il y a un vrai dysfonctionnement familial. Et prendre votre mal en patience et vous dire que dès que vous aurez fini vos études, vous ferez ce que vous voudrez, ça peut vous permettre de tenir.
Voilà le conseil qu'on peut vous donner, Mohamed. Essayez de passer par vos professeurs pour trouver une façon de contourner cette volonté de vos oncles et vos tantes de vous enfermer dans cette routine étude maison. On vous souhaite beaucoup de courage, Mohamed, pour affronter cette situation et essayer de trouver une solution pour vous en sortir. On va retourner au standard. Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Garoua au Cameroun, vous avez 32 ans, vous êtes infirmier depuis plus de 9 ans. Est-ce que vous aussi, vous connaissez ce sentiment d'être incompris?
Oui, exactement.
Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe pour vous?
C'est justement pour implémenter des idées.
C'est-à-dire que quand vous voulez mettre en place de nouvelles choses, par exemple, dans votre milieu professionnel, vous avez l'impression de vous heurter à un mur ?
Voilà, exactement. Et je parviens pas toujours.
Et comment vous l'expliquez ? Comment réagissent vos collègues ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Bon, ils disent que c'est pas ne marche pas, c'est pas bon.
Et alors, est-ce que vous avez une question à poser au docteur Gavard ?
Qui ?
Oui, Robert, est-ce que vous avez une question à poser au docteur Gavard qui vous écoute ?
Ah, ok, oui. Il y a une question. La question maintenant, c'est comment faire pour s'en sortir, pour être compris.
Docteur Gavard.
Alors, lorsqu'il y a plusieurs collègues qui n'ont pas l'air de vous comprendre, vous pourriez leur demander ce qu'ils attendent de vous. Vous voyez, c'est une façon inversée d'aborder le problème. Et vous pouvez finalement ne pas être d'accord avec eux et eux avec vous. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'insister. C'est-à-dire que très fréquemment dans les discussions, on a envie que l'autre se range à notre avis. Mais l'autre a son avis, et à tort ou à raison, et peut ne pas vouloir penser la même chose que vous en fin de discussion. C'est-à-dire que là, vous avez envie de convaincre, mais ils n'ont pas envie d'être convaincus. Vous pouvez faire votre travail, et puis voilà. Et vous avez des amis sûrement à l'extérieur qui partagent sûrement des intérêts avec vous, et vos collègues, peut-être que pour des raisons objectives où vous avez tort, ou objective, vous avez raison, mais eux ne peuvent pas le comprendre. Vous continuez à faire votre travail sans vouloir les convaincre, peut-être.
Merci Robert de nous avoir appelé. Bonne journée à Garoua. Encore une question WhatsApp. Théo du Burkina Faso nous écrit : ma fille est étudiante en master. Je la trouve trop recroquevillée sur elle-même. Elle se dit incomprise et nous rejette. Que faire ?
Alors ça, c'est formidable qu'un père soit ouvert comme ça. Donc, demandez à cette jeune fille ce qu'elle reproche aux parents. Et il faut voir si les parents sont prêts à écouter sans l'interrompre à chaque fois qu'elle critique, etc. C'est-à-dire, il faut lui demander ce qu'elle attend d'eux et ce qu'ils ont pu faire, même dans sa petite enfance, qui a pu la frustrer. C'est-à-dire une communication. Et c'est important que les parents disent, tu sais, effectivement, avec l'expérience, on aurait peut-être fait différemment maintenant si on avait un enfant petit. Mais on a fait ce qu'on a pu au mieux. Si on t'a fait souffrir, nous te présentons nos excuses, parce qu'on ne l'a pas fait exprès. Mais nous avons évidemment fait des erreurs éducatives, comme tous les parents. Là, déjà, c'est une base de discussion.
Et l'important, c'est de renouer le fil du dialogue.
Mais oui, parce qu'elle a sûrement des choses à reprocher et les parents ont sûrement fait de leur mieux.
Et ils ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils allaient contre la volonté, les désirs de leur fille.
Et donc, avoir un père qui vraiment est embêté par ça et a l'intention de discuter avec sa fille, c'est vraiment une chance.
Une dernière question, parce que le temps passe très vite. Dans le cadre du travail, ce sentiment obsédant d'être incompris et par conséquent de ne pas se sentir peut-être à la hauteur ou à l'unisson de ses collègues, peut-il conduire au burn-out ?
Ah oui, tout à fait. Parce que on peut ne pas être compris et qu'il n'y ait pas de conséquences juste personnelles comme ça. Bon. Mais très souvent, quand on n'est pas compris, il y a une mise à l'écart, il peut y avoir une critique constante et effectivement, la personne peut se sentir vraiment mal.
Merci beaucoup, docteur Marie-Claude Gavard, d'avoir été notre invité. Il y avait encore beaucoup de points à aborder, mais on refera une prochaine émission. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris et vous avez publié « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» aux éditions Marabout. On reste un petit peu dans le thème du jour avec notre choix musical « Do you understand me now ?» Sandia featuring David Walters, extrait de l'album de Sandia, What If.
Do you understand me now that I'm done talking? Do you understand me now that I'm gone? Do you understand me now that I'm done trying? Does your right hand understand me now in your empty bag?
Sandia. baby, you're my soldier. Il est pour nous aller, l'os par la geste. Il faut nous sauver, non, non. Il faut nous sauver comme nous.
Chaque année en France, près de 78 000 femmes sont touchées par le cancer. 20 000 d'entre elles en meurent. C'est un enjeu de santé publique. Pour tenter de diminuer le nombre de décès liés au cancer du sein et au cancer gynécologique, l'Institut des cancers des femmes a été lancé le 25 juin à Paris. Professeur Anne-Vincent Salomon, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes médecin à l'Institut Curie et directrice de cet Institut des cancers des femmes. D'abord, pouvez-vous nous présenter cet institut en quelques mots ? En quoi représente-t-il une révolution à la fois dans la prise en charge des femmes atteintes de cancer et dans la recherche de traitements les mieux adaptés possibles ?
Alors en fait, l'innovation portée par cet institut hospitalo-universitaire qui est cofondé par l'Institut Curie, l'Université Paris Sciences Lettres et l'INSERM, c'est justement de mettre la pluridisciplinarité, toutes les sciences au service de progrès dans la compréhension des cancers des femmes, que ce soit du sein ou gynécologique. Et puis l'autre grande originalité d'approche, c'est de mettre différentes spécialités, les médecins, les chercheurs, les soignants, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants, les techniciens, les ingénieurs et les associations de patientes autour de la table pour travailler ensemble et avoir de nouvelles idées, puisqu'on ne peut pas se contenter des résultats jusqu'à maintenant obtenus.
Quels sont les différents cancers spécifiques aux femmes ?
Alors en fait, là, on a choisi de se spécialiser autour des cancers du sein. Il y a quantité de formes différentes de cancer du sein, et puis les cancers de l'ovaire, là aussi, des quantités de formes différentes de cancer de l'ovaire, des cancers de l'endomètre, qui est cette muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire l'endroit où va se nicher l'embryon pendant la grossesse, c'est ça l'endomètre, hein, c'est à l'intérieur de la cavité de l'utérus, le col de l'utérus, et puis la vulve et le vagin. Ce sont les cancers dont nous allons nous occuper.
Et vous aviez l'impression que ces cancers n'intéressaient pas suffisamment les médecins, les chercheurs jusqu'à présent ?
Alors, ce n'est pas tant ça. Il y a de nombreuses recherches en cours, mais c'est surtout le constat qu'une fois que le cancer du sein est métastatique, les chances de survie restent trop minimes, malgré les progrès. Et en ce moment, on vit de grands progrès thérapeutiques. Donc, il faut que les patientes concernées gardent espoir, parce qu'il y a vraiment des innovations pour les cancers du sein métastatiques. Mais ce qu'on voulait, c'était améliorer la survie et faire des innovations pour les cancers de l'ovaire, où la survie est de 45% seulement à 5 ans. Et puis, les cancers du col de l'utérus, qu'on doit pouvoir prévenir, les cancers de l'endomètre qui augmentent beaucoup trop et dont on doit prévenir le développement et mieux comprendre comment ils se développent, et puis actionner toutes nos compétences et nos forces de recherche, y compris en sciences humaines et sociales, pour promouvoir les actions de prévention, comme autour de la vaccination anti-papillomavirus, puisque ils sont responsables, ces papillomavirus, des cancers du col de l'utérus, de la vulve et du vagin.
Et pour vous, il existe encore trop de disparités dans la prise en charge des femmes touchées par le cancer. C'est aussi à cela que vous voulez vous attaquer ?
Alors ça, c'est un problème complexe, mais effectivement, on peut constater actuellement une surmortalité dans certaines régions en France, pour ne parler que de la France, le nord de la France, ou par exemple la Seine-Saint-Denis, ou certaines autres régions en France. Donc, il y a très vraisemblablement des déterminants socio-économiques qui sont impliqués. Mais on n'a rien dit une fois qu'on a dit ça. Il faut aller plus en profondeur pour comprendre précisément la cause. Pourquoi est-ce que dans certaines régions, est-ce que c'est des expositions particulières, ou est-ce que c'est des problèmes en lien avec la prise en charge médicale, ou est-ce que c'est des problèmes en lien avec les populations concernées? Il faut trier, et ça, c'est de la recherche en sciences humaines et sociales de qualité qui doit être faite. C'est des recherches un peu longues, et là, on va pouvoir déployer les savoir-faire des chercheurs de l'École normale supérieure, de l'Université Dauphine, qui font partie de l'Université Paris Sciences Lettres.
Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez accueillir des patientes venues de l'étranger pour se faire soigner ?
Alors, à l'Institut Curie, bien sûr, on prend en charge des patientes de l'étranger. Il y a un service spécialisé pour l'accueil, mais surtout et avant tout, il faut qu'on, localement, on aide, on épaule et on fasse des passerelles pour trouver des moyens de standardiser les traitements et avoir des actions au niveau français, au niveau européen, et que ça fasse du bénéfice pour les patients à l'étranger. Merci. On est toujours mieux soigné près de ses proches.
Voilà. Merci infiniment, professeur Anne-Vincent Salomon, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin à l'Institut Curie et directrice de l'Institut des cancers des femmes. Bonne journée à vous. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Didier Bleu à la réalisation, à Laurent Hérault au standard et à toute l'équipe en coulisses qui m'a aidé à préparer l'émission. Louise Kaledek, Damien Roucou, Talim Pouot, Alice Lavigne et Inès Yazidi. À demain, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.